Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va faire quatre lectures assez longues, mais qui vont nous permettre de rentrer dans le bref, dans le fond de notre message. D'abord, nous lisons Ruth, les livres de Ruth. Premier chapitre, et nous lirons le verset 11e au verset 18. Ruth, chapitre 1er. 11 à 18. Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. » Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Soulignez bien ce qui va suivre. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Et j'aime beaucoup le verset 18. Naomi la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça d'insister auprès d'elle. Nous ajoutons au premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17. Et nous partons du verset 28 au verset 37. Premier livre de Samuel, chapitre 17e. Nous partons du verset 28. Eliab, son frère, le frère de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ces Philistins car tu as un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge. Je l'ai frappé, je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Esther, chapitre 4e, et là nous lisons les versets 10 et 11, et puis 15 et 16e, 10e et 11e verset, 4e chapitre du livre d'Esther, les versets 10 et 11, et puis les versets 15 et 16e. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend les spectres. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Versets 15 et 16. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Nous terminons avec Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. Nous partons du 1er au 8e verset. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » J'ai prié le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, « Si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, « Si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donnait ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » J'aimerais en ce jour parler sur le thème « Les instants de la destinée ». Les instants de la destinée. Avant de revenir sur ces quatre textes que j'ai mentionnés, j'aimerais faire part des quatre vérités, quatre choses auxquelles je crois et je crois fermement. La première des choses, c'est que je crois à la destinée. Je crois que Dieu prévoit des événements. Je crois que Dieu prévoit des séquences de vie. Et même, il planifie la manière dont ces séquences arrivent afin qu'un but qu'il a prévu au départ, connu par lui, but pour lequel il travaille, puisse s'accomplir. Je crois en un Dieu intelligent, un Dieu qui maîtrise tout, un Dieu qui a les moyens des choses qu'il veut accomplir en notre faveur. J'aime quand dans le psaume 139, au verset 16, le psalmiste dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. » Dites avec moi, tous inscrits. Il n'a pas dit la plupart, il a dit tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Le psalmiste reconnaît cela. Il reconnaît que sa vie n'est pas un accident, mais sa vie est un plan et un projet. J'aime quand Jérémie dit, je connais les projets que je fais pour vous. Et ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan. Dieu a un projet pour toi. Si les hommes n'en ont pas, lui, il en a un. Il dira à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, verset 4, 5, il parle à Jérémie au moment où celui-ci reçoit l'appel, mais il lui fait comprendre que l'appel, lui, découvre ça maintenant, mais veut dire à Jérémie, moi, je connaissais cela avant. Il lui dit, avant que j'étais formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que ton père ne dise à ta mère, je t'aime. Avant que ta mère aille réfléchir en disant à ton père, je répondrai dans quelques jours. Dieu savait! Je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, et cela me touche, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Et il va plus loin, il dit, je t'avais établi. D'autres versions disent, je t'avais enraciné. C'est pour cela que j'ai confiance quand Dieu m'a établi. Rien ni personne ne peut m'enlever. Rien ni personne. Je t'avais établi prophète des nations. Et j'aime encore quand dans Galates chapitre 1er au verset 15, celui qui n'a pas d'abord connu Christ et qui même a persécuté l'église dira, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère. Il m'a mis à part dès les seins de ma mère. C'est pour cela que j'aime encore quand Éphésiens chapitre 2 verset 10, c'est vrai cette pensée, s'attache aux œuvres de piété, aux œuvres attachées à notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, mais qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'aime beaucoup la traduction Parole vivante ou Alfred Cohen. Écoutez ce que cette traduction dit. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour accomplir dans la communion avec lui, pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Je crois en la destinée. Je crois au plan et au projet que Dieu a pour nous. Vous savez, quand vous vivez assez longtemps et que vous arrivez à un moment où vous atteignez des buts et des objectifs qui vous satisfont, en regardant en arrière, vous vous rendez compte que les choses qui apparemment étaient un chaos, c'était tout un arrangement. Il a fallu ça pour que je rencontre tel. Il a fallu ça pour que ça m'amène à ça. Comme un puzzle qui s'est reconstruit, vous comprenez tout. C'est pour cela que j'ai appris à dire toutes choses coopèrent, toutes choses travaillent, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Des fois les coups des hommes, des fois les larmes, des fois les rejets, toutes choses travaillent, coopèrent. Des fois l'incompréhension, des fois je ne sais les déserts, toutes choses. Dites avec moi toutes choses. Je crois à la destinée. Mais deuxièmement, je crois aussi que l'homme doit travailler pour sa destinée. Je ne crois pas que l'homme subit le destin. Je ne crois pas que l'homme est appelé à être passif. L'un des plus beaux cadeaux que Dieu ait pu faire à l'homme, il lui a donné le libre arbitre. La capacité de choisir. Dieu n'a pas fait de l'homme un robot. Dieu n'a pas fait de l'homme, je ne sais pas moi, une sorte de puppet, disent les Anglais, une marionnette qui bouge au gré de celui qui est derrière et qui actionne. Dieu a donné à l'homme la capacité. Les choses que Dieu a prévues, les choses que Dieu a planifiées s'accompliront selon que vous agissez d'une certaine manière ou que vous n'agissez pas d'une certaine manière. Déjà dans Genèse au chapitre 1er, versets 16 à 17, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Merveilleux plan, mais tu as l'option. C'est à toi de choisir. Tu ne touches pas, voilà ce qu'il y aura comme destin. Un destin que j'ai rêvé, que j'ai planifié. Mais tu touches, voilà ce qui va arriver. Plus loin encore, dans Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19, par la bouche de son serviteur, il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort. » La bénédiction et la malédiction. Mais en père responsable et un père qui nous aime, il dit, choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Il ne dit pas, je vais choisir pour toi. Il dit, c'est à toi de le faire. C'est à toi de poser certains actes. Alléluia. Et troisième grande vérité que j'aimerais mentionner, c'est que je crois au pouvoir du temps. Je crois que le temps a en son sein un contenu qu'il nous faut discerner et saisir. Le temps a quelque chose caché au-dedans. Dans 1 Chronique chapitre 12, au verset 32, la Bible nous parle d'un groupe de gens en Israël qui avaient une caractéristique particulière. Écoutez ce que la Bible dit les concernant. Des fils d'Issacar qui savaient discerner les temps. Pour savoir ce qu'Israël devait faire. Une autre version dit, ils avaient l'intelligence du temps. Pour savoir discerner ce qu'Israël devait faire. Une autre version que j'ai lu dit, ils connaissaient les temps et ils posaient des actes pour retirer du temps les contenus que celui-ci avait. Ils ne faisaient rien, n'importe quand. Ils regardaient que faire et quand. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, la Bible va encore plus loin pour montrer l'importance qu'il y a à savoir poser les actes qu'il faut au moment où il les faut. Les sages qui a beaucoup vécu. J'aime beaucoup les livres d'Ecclésiaste et des Proverbes. Ce sont des livres écrits par quelqu'un qui écrit un peu comme des mémoires. Du reste, tout au long de ces deux livres, il dit, j'ai vu, j'ai observé, et puis j'en suis arrivé à la conclusion que... Et après avoir observé, écoutez l'une des conclusions qu'il nous donne. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. C'est-à-dire, on peut être agile, on peut être vaillant. Il va plus loin, il dit, le pain n'appartient pas aux sages, ni la richesse aux intelligents. Et même la faveur, c'est point aux savants. Il écarte tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Une autre version enseigne dit, tout dépend pour eux de la manière dont ils appréhendent les temps et les contenus que les temps a. Seigneur, aide-moi à saisir les bons moments. Aide-moi à saisir les circonstances favorables que tu places devant moi. Et ce principe est encore étayé par Luc au chapitre 19, au verset 41. Christ est à la fin de son ministère sur terre. Il est venu, il sait qu'il avait tout un dépôt de choses en réserve pour son peuple. Et là, il est en train de finir son ministère. Il entre à Jérusalem. On peut dire qu'il est au summum de sa popularité, si je peux parler ainsi. Il est sur un anneau. Les femmes jettent des pagnes. D'autres tiennent des rameaux. L'on crie, l'on chante Hosanna. Mais au beau milieu de cette joie, des larmes perlent et des larmes coulent des yeux du maître. Contraste. Attitude apparemment anachronique, pas adaptée à la circonstance. Et quand il ouvre la bouche, il leur fait comprendre pourquoi il pleure. Jérusalem, Jérusalem, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais j'aime beaucoup à la fin, au verset 44, il leur montre pourquoi il pleure. Il dit, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu les contenus de ces temps. Ces 3 ans qui viennent de passer, ces temps durants pour lesquels les prophètes ont parlé. Seigneur, aide-moi à reconnaître les temps que tu me donnes. Aide-moi à reconnaître quand tu ouvres les portes. J'aime souvent dire à ceux de mon église, toutes les heures sont heures, mais toutes les heures n'ont pas la même valeur. Tous les jours sont jours, mais tous les jours n'ont pas la même valeur. Il y a des fois des instants, des heures qui ont un contenu. Si nous posons l'acte qu'il faut, toute notre vie bascule, échange. Et ce qui me permet de dire la quatrième vérité, c'est que dans la vie, il y a des instants de la destinée. Il y a des instants de la destinée. Il y a une portion de temps ayant en elle un contenu qui peut changer le cours de notre vie. Lui donner une orientation et une direction différente. Mais pour saisir les instants de la destinée, il y a quelques préalables. Premièrement, il faut savoir que les instants de la destinée existent, qu'ils sont réels. Deuxièmement, il faut les reconnaître lorsqu'ils arrivent, les identifier. Et troisièmement, il faut poser les actes qu'il faut quand ces instants arrivent. Dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 24, la Bible nous parle de David qui est devenu roi. Et puis voilà, les Philistins ont attaqué le pays. Il a combattu une première fois en ayant l'orientation de Dieu. Mais la deuxième fois, il veut aller combattre. Dieu lui dit, quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David, n'agis pas avant. David, n'agis pas non plus après. Entends seulement. Quand tu entendras un bruit, c'est le moment M où il faut poser des actes A pour avoir des résultats R. Alléluia. Quand tu entendras, j'aime beaucoup aussi Jean chapitre 5, verset 4. La Bible nous parle d'un endroit particulier, cette piscine, où les hommes, ayant toutes sortes de maux, se retrouvaient pour obtenir la guérison. Et il est dit, un ange de Dieu descendait de temps en temps. J'ai toujours été étonné pourquoi l'ange ne restait pas en permanence. De temps en temps, agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. C'était la même eau. Mais tu descends avant que l'ange n'agite, il n'y a rien. Tu le fais après, rien du tout. Il y a un instant particulier qu'il faut savoir saisir. Pour les uns, l'eau n'était qu'un bain. Mais pour les autres, celui qui descendait au bon moment, il saisissait la chose. Seigneur, aide-moi à saisir les instants. Aide-moi à ne jamais rater. J'étais il y a quelques années aux États-Unis et j'ai été introduit auprès d'un homme de Dieu qui a son œuvre à Dallas. On était plusieurs et on discutait avec lui. C'est le pasteur T.D. Jakes. Et il nous parlait, il dit, quand je regarde ma vie, je me dis, il est possible de passer à côté de l'essentiel. Il a dit, il suffit d'un rien, c'est à un niveau, mais il suffit aussi d'un petit acte et tout change. Il a expliqué comment il a été pasteur longtemps à West Virginia, mais il a dit, à un moment, il a passé 6 mois. Dans son cœur, il sentait qu'il devait bouger. Il sentait que ce n'était plus sa place. Et il a utilisé une phrase que j'utilisais souvent. Il a dit, il y a des instants de la vie où subitement vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez. Mais tout ce que vous savez, c'est que vous savez. Je sais. Comment tu sais? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que... Dis à ton voisin, je sais. Je sais. C'est difficile à expliquer. Tu auras des problèmes avec des cartésiens. Démontre-moi par A plus B. Je ne peux le faire, mais je sais. Il a dit, j'ai su que je devais partir. Il dit, à la fin du 6e mois, j'ai su que je ne devais pas arriver au 7e mois. J'arrivais pas à l'expliquer. Il dit, j'ai discuté avec mon épouse. Son épouse a dit, dans tout le cas, je ne sens pas la même chose que toi, mais j'irai avec toi partout. Et les deux sont venus à Dallas. Et une année après, c'était l'explosion. Il dit, nous sommes passés du minimum au maximum. Il y a des fois un maximum qui vous attend quelque part et vous restez à un endroit du minimum. Simplement parce que vous n'osez pas vous jeter. Vous n'osez pas poser l'acte qu'il faut. Seigneur, aide-moi à reconnaître les instants du destin. Et les 4 textes que nous avons lus nous parlent de 5 personnes qui ont eu à connaître ces instants du destin. Ces instants de la destinée. La première portion que nous avons lue de Ruth, chapitre 1, versets 11 à 18, nous parle de l'instant où 2 destins séjournent. Une destinée qui s'est faite et une autre destinée qui s'est défaite. Mais les deux ont la même possibilité. L'une pose un acte, l'autre refuse de la poser. Peut-être qu'elle hésite, peut-être qu'elle n'a pas la maîtrise de tout. L'une fonce, elle ne connaît pas demain, mais elle saisit la main du Dieu qui connaît demain. Et elle va de l'avant. Oulala, j'essaie de m'imaginer, des années plus tard, quand elle était dans la paix, dans la quiétude, dans la maison de Boaz. Une femme épanouie, une femme qui rentre dans la lignée du maître, elle a dû se dire, et si je n'avais pas posé cet acte? Et si je n'étais pas parti? Et si j'avais laissé partir Naomi? Dites avec moi, je ne laisserai pas partir Naomi. Naomi dit, je dois retourner chez moi. Et dans ces textes, il y a comme un jeu de ping-pong. Naomi montre toutes les bonnes raisons pour lesquelles Orpa et Ruth doivent rester. Elle est convaincante. Elle leur parle, dit, bon, supposons que vous voulez me suivre. Allez-vous attendre que je puisse rencontrer un homme? Soyez raisonnable, jeune fille. Que je puisse mettre... Et je suis sûr que quand il parle, Orpa dit, ok, oh là là. Les émotions ont failli me voler la raison. Les deux ont pleuré. C'est pour ça que j'aime souvent dire, ce qui compte, ce ne sont pas les émotions. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait après. Amen. En tant que pasteur, j'ai souvent vu des gens venir se répentir. Le message est fort, il faut quitter telle chose. On pleure ici. Mais en ressortant, Yannick t'attend. Mais si on a bien pleuré, hein? se détache et Ruth reste attachée. Mais étonnant. Merci mon frère. Ben allez-y, pourquoi pas. Étonnant. Alors que Ruth reste attachée et que Orpah s'est détachée, Naomi va encore de plus belle. Elle fait encore réfléchir la seule qui reste. Non, retourne chez toi. Et deux choses me frappent. Rien n'obligeait Ruth à suivre et à s'attacher à Naomi. Premièrement, les liens qui les unissaient, c'est-à-dire Maclon, avaient cessé d'exister. Maclon est mort. C'est à cause de lui et par lui que toi et moi, on était liés. Et deuxièmement, elle avait tout à gagner en restant. C'était son pays, sa culture, sa langue. Là, elle avait des cousines, des tantes. Si elle manquait du sel, elle pouvait aller comme à Kinshasa. Est-ce que tu peux me donner du sel? Mais elle avait humainement parlant tout à perdre. En allant sur un territoire étranger. Puis en plus, suivre une veuve. Et une veuve pauvre. Mais elle sait pas au fond d'elle, elle sent que je dois m'attacher à elle. Et j'aime ce que la Bible dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Et la Bible dit, Naomi la voyait décidée. Ah, et là, j'aimerais dire une vérité avant de passer. Il y a des instants du destin quand vous les saisissez. Des fois, vous n'avez pas des résultats tout de suite. Mais vous s'aimez pour quelque chose qui va vous rapporter gros. Elle s'attache à cette femme. Et même quand elle arrive au pays de Bethléem, elle est en train de faire un travail abaissant. Tout pour faire dire, suis-je au bon endroit? Ai-je pris la bonne décision? Mais attends, les Naomi auxquels nous nous attachons nous amènent toujours vers Boaz. Amen. Toujours, toujours, toujours. Et comme je l'ai dit, plus tard, cet homme Boaz, l'homme le plus important de Bethléem, s'intéresse à elle. Elle a dû se demander, est-ce moi? Et plus tard, c'est le plus grand mariage. Et plus tard, elle est élevée. Seigneur, aide-moi à trouver ce matin une route qui va poser l'acte qu'il faut. Et retirer de la destinée tout ce que celle-ci contient. Qu'il est triste d'arriver au soir de sa vie et de regarder en arrière, de voir des opportunités manquées. Des occasions que l'on aurait dû saisir et que l'on n'a pas saisies. Seigneur, aide-moi à reconnaître quand tu marches. Aide-moi à reconnaître quand tu avances, afin que je puisse avancer avec toi. Lorsque nous appartenons à Jéhovah et que nous apprenons à vivre avec lui dans l'intimité, deux choses se passent. Premièrement, il dispose dans nos cœurs ses pensées. Des fois, il ne parle pas forcément. Psaume 84, verset 6 dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce n'est pas forcément une voix audible dans leur cœur, une conviction, un dépôt. J'aime beaucoup ce que le porteur d'armes de Jonathan lui dit. Alors que Jonathan sait qu'il y a seulement Élu et Saül qui ont les armes. Mais Saül est en train de dormir sous un arbre. Jonathan s'élève et dit, Dieu n'est pas obligé de sauver par un grand nombre. Il peut même sauver par un petit nombre. Subitement, Jonathan a un dépôt. Il dit à son serviteur, allons-y. Et j'aime les propos de cet homme. Il dit, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Et moi, je suis à tes côtés. Vas-y, écoute ces dépôts. Et quand nous lisons la suite, nous voyons cette grande victoire obtenue par cet homme. Il met quelque chose au plus profond de nous. Mais Proverbes au chapitre 20, au verset 24, nous dit aussi une vérité profonde. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Dans notre version française, la traduction atténue un peu la vérité. La version anglaise dit, Dieu dirige les séquences de la vie de l'homme juste. Dieu ordonne. Ça dit, rien ne se fait au hasard. Tu les crains tellement, tu es tellement en intimité avec lui, que tu fais ce qu'il aurait voulu que tu fasses, Tu dis ce qu'il aurait voulu que tu dises et tu poses les actes qu'il veut que tu poses. Tu es comme attaché à lui. Tu captes sa pensée 5 sur 5. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être à ton écoute. Enfin, de retirer de tout ce que tu as planifié d'avance pour moi le grand maximum. Que dire de David qui, au moment de s'avancer, alors qu'il est là devant Goliath, il a deux obstacles. Premièrement, il est intimidé par son frère qui lui prête des intentions qu'il n'a pas. Eliab lui dit, je connais la malice de ton cœur. Petit, moi j'habite avec toi. Ces gens-ci connaissent, moi je te connais, je connais la malice de ton cœur. Une fois sur la route de la destinée, il y a des obstacles. Mais j'aime ce que la Bible dit. David se détourna de lui. Quelqu'un d'autre, s'il était de mon pays, va dire, bon, moi je rentre. Sinon, Eliab va dire, oh. Les vrais francophones ne comprendront pas ça, c'est un français de chez nous. Eliab va dire, oh, je n'étais venu que pour ça. Alors, pour ne pas lui donner la raison, je rentre. Il a dit, je sens, this is my day. Ça, c'est mon jour. Il est passé. Il a eu un deuxième obstacle. Et cet obstacle était plus costaud que le premier. Il est découragé par un roi qui a deux caractéristiques. Un roi responsable et réaliste. Ce roi enlève le côté émotif du jeûne. Il dit, vous le jeûne, vous êtes trop émotif. Il met de manière parallèle, d'un côté David et de l'autre côté Goliath. Il dit, peut-être n'a pas fait attention à cela. Il dit, t'es concernant, un, tu es jeune. Et deux, sans expérience. Mais de l'autre côté, il dit, lui, c'est un homme de guerre. Et puis il dit, dès sa jeunesse. Tu vois ses triceps, tu vois ses biceps, tu vois son corps travaillé par la culture. Hein, petit, s'il y avait quelqu'un à aller combattre, c'était moi. Moi, je reste et toi, tu veux partir, petit. J'aime quand la Bible dit, David dit, j'irai. Et même finalement, Saül les laisse partir. Souvent, nous ne réalisons pas les contextes. Les rois de l'époque, ils avaient un pouvoir absolu. Personne n'avait le droit de les contredire. C'était presque des divinités. Tout ce qu'il fallait donner comme réponse en leur présence, c'était oui. Donc, c'était risqué de la part de David de dire autre chose. Normalement, il aurait dû dire, oui, mon Seigneur, j'avais pensé, mais merci pour ta réflexion. Et plus tard même, il adhère au schéma de Saül. Il porte une armure qui pèse bien plus qu'elle lui veut s'avancer. Il n'arrive pas. Et là encore, il prend un risque. Excellence, est-ce qu'on peut m'enlever ça? Jeune homme, qu'est-ce que tu auras comme arme? Il a pris ses cinq pierres. Et sa fronde, les rois du dire, les jeunes gens aussi, oulala. J'ai en mémoire une fois, je prêchais dans une grande école chez nous à Kinshasa. J'étais invité comme orateur, je suis arrivé, il y avait plus de 3000 jeunes. C'était en plein air. Et juste 10 minutes avant que je ne commence à prêcher, il y a des gouttelettes de pluie qui ont commencé à tomber. Je me suis rappelé le jeune homme, j'ai dit, jeune homme, il y a un endroit où toute cette masse, on peut aller et on va se mettre à l'abri de la pluie. Et faisons-le avant que la pluie ne commence. Je vois le jeune homme retournant au micro et dit, hier soir, Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas de pluie. Personne ne bouge. Et quand il a fini de parler, les gouttelettes de pluie ont grossi. Je l'ai appelé pour la deuxième fois. J'ai dit, jeune homme, on dit qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Déplaçons-nous. Ça n'amoindrait en rien la toute-puissance de Dieu. Calmement, il est remonté au micro et dit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je revois encore ce jeune homme. Il avait, je pense, entre 17 et 18 ans. Il a levé son doigt au ciel et dit, pluie, va là où l'agriculteur a besoin de toi. Nous, maintenant, ici, on n'a pas besoin de toi. Il dit que personne ne bouge. Grand était mon étonnement. J'avais l'impression qu'une main avait tout arrêté. J'étais un conseiller réaliste, mais lui, il avait écouté Dieu. Et je me souviens à la fin, quand j'ai lancé l'appel pour que les gens viennent recevoir Christ, un homme s'est avancé en pleurant. Ceux qui étaient à côté de lui m'ont dit, après, c'était un chauffeur de taxi qui s'était arrêté là. Quand les jeunes hommes parlaient, il semble qu'il leur a dit, s'il pleut, je commencerai par tabasser ces pasteurs. Mais quand il a vu que la pluie est partie, il a dit à ses amis à Lingala, Maramarosa, sérieux. Ça dit que ces choses sont sérieuses. Que Dieu soit Dieu. Donnons-nous des gens qui écoutent Dieu. Donnons-nous des gens qui ont la pensée de Dieu. Saül parle. Saül fait réfléchir le jeune homme. David n'est pas contre la réflexion, mais son cœur lui dit. Combien de fois nous écoutons Eliab et nous écoutons Saül et nous empêchons alors aux femmes de chanter « Saül a tué ses mille et David a tué ses... » Il y a un chant qui est derrière. Il y a un cantique. L'inconnu peut devenir connu. Les garçons des courses peuvent devenir héros. Si seulement il peut écouter ce que son cœur lui dit. Je me suis toujours imaginé le plus mal à l'aise ce jour-là, ça a dû être Isaïe, le père de David. Il avait envoyé un garçon des courses. Et quand l'élite d'Israël est rentré, il a entendu ses chants. Saül a tué ses mille. Il dit, bon, ça je suis habitué. Souvent quand il rentre, il vante Saül. Mais il a entendu la deuxième partie du chant. On a dit, David a tué. Il a dû se dire, quel David? Aide-moi à poser les actes de la destinée. Aide-moi à saisir quand tu es de mon côté. Aide-moi à ne jamais, jamais, jamais manquer les occasions que tu mets devant moi. Aide-moi à reconnaître quand tu ouvres une porte. Aide-moi à la saisir et à la saisir totalement. Et les deux dernières portions que nous avons lues, je les mets ensemble. Néhémie ainsi que Esther. Là, quasiment, il y a les mêmes principes. Premièrement, il y a un homme et une femme qui reçoivent chaque fois un message et leur cœur bouillonne. Subitement, l'un et l'autre savent et ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent plus faire. À lui, du message qu'il a reçu, de l'état de sa cité, Néhémie a pleuré. Et Néhémie a su que sa saison d'être échanson était finie. Que des fois, les bâtisseurs est tué parce que les chansons n'arrivent pas à laisser les vins. Que des fois, Dieu attend quelqu'un pour rebâtir la muraille, mais n'arrive pas à entendre la voix de Dieu et il continue à servir le roi alors qu'un destin plus grand l'attend. Néhémie sent. Et ce que j'aime, non seulement qu'il sent cela, mais il sait. À Esther aussi, un message est apporté. Esther, il te faut faire quelque chose. Ta nation est en danger. Et qui sait, si ce n'est pas pour des instants comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Les deux ont reçu un message, mais deuxièmement, chaque fois les deux ont prié. Ah, j'aime la prière. Vous avez la grâce d'avoir un homme, j'ai appris des réputations. C'est un homme qui aime la prière. Mon pasteur me disait, là où tout a échoué, la prière est réussie. La prière a la capacité de ramener sur terre le potentiel céleste pour des combats terrestres. La prière et la prière encore. L'une des conséquences de la prière que j'aime beaucoup, c'est quand Christ est en train de prier à Gethsemane, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Et j'aime quand il est dit, un ange vient du ciel pour le soutenir. pour les fortifier. Ah, nous ne voyons pas toujours avec nos yeux ce que la prière fait, mais la prière fait des choses inimaginables. Et quand et l'un et l'autre ont prié, ils ont posé des actes qui ont tout changé. Néhémie a pris le risque d'aller parler au roi. Il avait même l'air triste au départ. Le roi pour lui a posé la question, mais pourquoi as-tu l'air triste? Il ne fallait pas ouvrir la bouche, il ne fallait pas dire n'importe quoi. Et il s'est mis à parler au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Écoutez le verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Waouh! Instant crucial. L'abbé dit, j'ai prié les dieux des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi va plus loin. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Et même le roi lui donnant entre ses mains tout ce dont il avait besoin, des lettres pour les bois et tant de choses. Et plus tard, en 52 jours après, la muraille sera rebâtie. Non pas par quelqu'un qui était là, mais par quelqu'un qui est au loin, qui a su entendre la voix de Dieu. Poser l'acte qu'il fallait. Mais pour Esther, c'est encore fantastique. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Mais elle a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est la loi. Personne n'a le droit de s'avancer vers le roi s'il ne vous a pas appelé. Mais deuxièmement, il dit, cela fait 30 jours, il y a un blackout. Je suis sa femme, mais je ne l'ai même pas eu au téléphone. Ça veut dire que dans ces derniers temps, je ne suis pas dans ses carnets. Mais j'aime, elle dit, je prierai. J'insiste encore, la prière change tout. Et finalement, après avoir prié, elle dit, quand j'aurai prié, j'irai. Si je dois mourir. Waouh. Seule la prière vous donne cette aptitude. Vous vous dites, ou ça passe, ou ça casse. La prière vous donne cela. Mon pasteur m'a dit, le courage, ce n'est pas le fait de ne pas trembler. Le courage, c'est avancer en tremblant. Amen. Mais j'avance. Mais j'avance. Elle n'était sûre de rien. Tout ce qu'elle avait comme assurance, c'était dans la prière qu'elle avait reçue cela. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Si le roi ne réagit pas bien, j'ai ma tête coupée. Mais si le roi réagit bien. Vous savez, souvent, nous avons toujours tendance à voir les côtés négatifs. Si je fais ça et si ça ne marchait pas. Mais moi, j'aime aussi voir l'autre côté. Et si ça marche. Et si ça marche. Et ce que j'aime, Esther s'avance. Elle est humaine, elle ne sait pas très bien. Il y a un suspense. Et puis, elle voit les rois et dit, ouf, ouf, ouf. Mais ce que j'aime, à la place de la tête coupée, on lui fait une proposition que seule la prière peut provoquer. Amen. Esther, je suis prêt à te donner même la moitié du royaume. La prière, la prière, la prière et la prière et la prière encore. Et quand nous voyons la suite, le destin de tout son peuple a été changé. Parce qu'elle a posé un acte. En terminant, j'aimerais dire trois choses. C'est qu'il y a des choses que Jéhovah n'aime pas en termes de résolutions ou d'engagement. Premièrement, c'est prendre des résolutions sans lui. Aller sans être rassuré qu'il marche avec nous. Dans Isaïe chapitre 30, au verset 1er, il dit « Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi. Malheur aux enfants rebelles. » Mais j'aime une deuxième chose. C'est qu'il nous faut savoir faire ce qu'il faut et le faire au moment où il est faut. Il est bon d'étudier un problème. Il est bon de voir les pour et les contre avant de se lancer. Il est bon d'entrer dans la profondeur, de voir les tenants et les aboutissants. Mais que des fois nous passons trop de temps à étudier des choses. J'ai dit l'étude est bonne, elle est même obligatoire. Mais il y a des moments où il faut savoir foncer. Dans Juges chapitre 5, au verset 15 à 16, Déborah chante
Et dans ces chants, elle loue et blâme les tribus d'Israël, selon que les unes ont bien répondu à son appel et d'autres non. Écoutez les chants de Déborah. Elle dit, les princes d'Issacar furent avec Déborah. Et Issacar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Pourquoi? Les pays étaient attaqués par les Philistins et personne ne s'est levé. Déborah dit, je me suis levé comme une mère. Mais pour ne pas aller combattre seule, elle a envoyé un message à tous les chefs des tribus. Venez vous joindre à moi. Mais écoutez la suite. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Ruben sait ce qu'il doit faire. Mais il est en train de réfléchir. Écoutez la suite. Pourquoi es-tu resté au milieu de tes étables à écouter les bêlements du troupeau? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Bon, qu'est-ce qu'il dit vraiment que ça va marcher? Je vais bien. Résolution. Retourner. Ruben sait ce qu'il doit faire, mais ne le fait pas. On raconte cette histoire dans mon pays. Un monsieur avait un voisin, vous savez, chez nous, c'est la grande solidarité. Il avait pas mangé chez lui depuis 2 jours. Puis il a dit, je vais aller chez le voisin. Je vois, il a plusieurs poules. Mais il y en a une qui est en état d'être consommée. Et quand il arrive chez le voisin, il s'assied. Il dit, bon, en plus aussi, quand tu arrives, il ne faut pas aller droit au but. Il faut un apéro. Alors, comment ça va, voisin? Et ta famille, et les études, les enfants? Alors, et les travaux? Et le temps qu'il parlait comme ça, un autre voisin est arrivé. Il dit, voisin, tel que tu me vois là, on n'a pas à manger chez nous. Je voulais te demander si tu pouvais me donner cette poule. Il dit, mais prends-le. L'autre dit, attends, papa. Moi aussi. Aide-moi à foncer là où je dois foncer. Et je termine avec cette dernière chose. Pour poser les arcs du destin, des fois nous serons appelés à écouter Dieu au travers des hommes. C'est vrai que la Bible dit les saluer dans un grand nombre des conseillers. Mais j'aimerais le dire aussi. Il y a des moments où il nous faut écouter Dieu et Dieu seul. J'aime quand dans Galates chapitre 1 verset 16, Paul dit, je ne consulta ni la chair, ni les sangs. Je suis dans une ville des États-Unis, j'ai vu un homme de Dieu, une grande église, un grand ministère. Il a commencé son ministère il y a plus de 45 ans. Il a même des avions. J'ai discuté avec lui, avec plusieurs autres amis. Et il nous disait le même principe que le pasteur T.D. Jakes nous a dit. Il dit, il y a des actes de la vie que l'on pose et on s'est dit, il a fallu ça. Alors il nous explique, il dit, nous étions en l'an 62 et nous avions la possibilité nous, d'obtenir une concession. Notre église, elle était toute petite. Une concession qui était en face, un très très grand terrain. Il dit, je suis allé, j'ai vu les responsables, j'ai dit, nous voulons obtenir cette place. Ils ont dit, ok, ils ont donné toutes les conditions. Il dit, je suis rentré, j'ai discuté avec les comités de l'église, nous étions une dizaine. Vous savez, j'aimerais dire quelque chose qui n'engage que moi. Les comités sont très bons, nécessaires pour nous aider des fois à tout étudier. Il y a des moments où les comités peuvent être très dangereux. Il dit, nous avons discuté, ceux du comité ont dit, on va passer au vote. Et quand ils ont voté, ils ont dit, on ne prend pas cette place. Il dit, je suis rentré en prière, Dieu m'a dit, prenez cette place, car vous ne savez pas ce que je vais faire avec vous. Il dit, je suis rentré en pleine réunion, je convoquais encore une réunion, on a discuté. Ils ont dit, niette, c'est la lutte entre la raison et la pensée de Dieu. Ils n'avaient pas tort, mais ils évoluent à un niveau humain. Il dit, je suis allé prier une deuxième fois. Le Seigneur m'a dit, s'ils ne veulent pas prendre ces terrains, prends-les pour toi. Il est allé, il a pris les risques, il a hypothéqué même 2 de ses maisons et on lui a donné. Il est resté travailler comme pasteur. Mais il dit, 9 mois après, un jour on était en train juste de vouloir mettre des fondations. On allait plus bas, on a vu
de pétrole. Et les experts sont venus voir cet endroit. Ils ont dit, ici, il y a du pétrole pour 80 ans. Dieu voulait que ça soit pour l'Église. Les comités ont fait de ce pétrole, le pétrole. Ce pasteur dit, cet acte de foi a fait de moi ce que je suis devenu. Il y a des instants de la destinée. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.